sur le grill d'Écotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Bonne écoute!
Pour moi, l'avenir, le futur désirable et souhaitable, il va se construire de manière locale, voire hyper locale. Et je trouve ça super, mais je trouve ça atroce d'un point de vue. Pour moi, c'est un échec de la société que de devoir se dire qu'il n'y a qu'au niveau local qu'on peut faire des choses. Et pourquoi au niveau national, on ne peut pas, ou même au niveau régional, on ne peut pas. Mais on voit qu'au niveau local, plein d'initiatives comme la SSA fonctionnent et que des gens peuvent enfin manger des légumes tous les jours et peuvent enfin se sentir faire partie de la société. Et je reboucle avec ce dont je parlais tout à l'heure, du plaisir. En fait, la consommation aujourd'hui permet de se sentir pleinement citoyen, citoyenne, de faire pleinement partie d'une société dans laquelle on dit, pour exister, il faut consommer. Il faut consommer comme tout le monde. C'est pour ça que je parlais des Kinder, du Nutella, donc on parle beaucoup de Ferrero, mais bon, mais ou de Milka, de Lindt, je ne sais quoi, du chocolat, des choses qu'on trouve en supermarché qui sont plutôt accessibles. C'est qu'en mangeant ça, on se dit, moi, je peux faire comme les autres, en fait. Je peux manger comme tout le monde. Quand vous avez des injonctions à la télé qui sont « mange 5 fruits et légumes par jour », et que vous n'avez pas les moyens d'y répondre positivement, parce que vous n'avez pas les moyens de manger 5 fruits et légumes par jour, ben vous vous sentez quoi? Vous vous sentez coupable? Vous vous sentez ne pas faire partie, ne pas être, je ne sais pas, un bon citoyen, j'en sais rien, ou un bon parent peut-être, ou un bon aidant. Et quand vous pouvez avoir accès à ces fruits et ces légumes, vous savez que vous faites du bien à votre cœur. Vous n'êtes pas débile, évidemment. Les pauvres ne sont pas complètement ignorants de ce qui est bon ou pas bon. Ça, faut arrêter aussi d'infantiliser, d'avoir une présomption d'ignorance sur les populations précaires. Mais vous pouvez enfin avoir accès et surtout, vous avez le choix. Parce que l'aide alimentaire, ce n'est pas avoir le choix de ce qu'on mange. Et ça, c'est une violence alimentaire, pour reprendre l'expression de Bénédicte Bondy. C'est une violence alimentaire que de ne pas avoir le choix de ce qu'on mange. Moi, je dis aux gens, pareil, comme je leur dis, allez tester une semaine à l'hôtel social pour voir si vous allez réussir à faire à manger comme vous faites la leçon à tout le monde. Et puis, passez une semaine à ne vous nourrir que de ce que l'aide alimentaire vous donne, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont dépendants à 100% de l'aide alimentaire, alors qu'il y a des gens pour qui c'était une solution ponctuelle, souvent. Allez vous nourrir avec des colis alimentaires. Vous n'avez pas choisi, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ça se trouve, vous n'aimez pas, ou vous ne savez pas quoi faire avec. Vous nourrir de choses que vous n'aimez pas, c'est une violence.
Tu finis ton livre par « Mangeons les riches ». Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie renverser un système où les plus riches se gavent sur le dos des autres et où la nature est vue comme une ressource pure. On ne voit ça que comme une ressource. Et où on voit la nature comme une ressource, tout comme le capitalisme voit les êtres humains comme des ressources à exploiter pour créer de la richesse que eux seuls vont toucher. Manger les riches, c'est se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont toujours aussi privilégiés, qui n'entendent pas remettre en question leurs privilèges, qui leur sont naturels. Il y a encore ça. Il y a encore l'idée que si on est riche ou qu'on est une classe moyenne supérieure, c'est qu'on l'a mérité. Et que les gens qui sont dans une situation très précaire, c'est qu'ils l'ont mérité aussi et qu'il ne faut rien pour s'en sortir. Donc cette présomption de naturalité, d'un état, de fait, on m'a déjà dit, mais il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres. Ben non, j'espère que non. Enfin, j'espère qu'il y aura, que justement, ça, c'est ce pour quoi on se bat. J'espère qu'un jour, on n'aura plus d'inégalités aussi démentes. Et surtout, j'aimerais qu'on se rende compte de ce que représente la faim aujourd'hui en France, et de ce que représentent les monopoles que je décris dans le livre, parce que autant on n'est pas du tout au fait des subventions, on n'est pas au fait de la structure des prix, mais on n'est pas au fait de ce dont je parle dans le premier chapitre, qui est un peu plus aride, mais qui est sur l'économie, du monopole, par exemple. Bah oui, moi j'ai appris en écrivant le livre qu'il y avait 4 multinationales qui avaient un monopole de céréales dans le monde. Sur les semences, c'est pareil. On a quelques entreprises qui détiennent plus de la moitié du marché des semences et qui maintiennent dans une situation de dépendance les agriculteurs et agricultrices. Donc il y a ça aussi.
La plus connue étant Bayer Monsanto.
Comment ?
La plus connue étant Bayer Monsanto.
Étant Bayer, évidemment. Et on a aussi une entreprise française dans le l'Imagrain, dans le top. Donc, en fait, j'avais envie qu'on... Pour moi, à travers ce livre, encore une fois, il y a quelque chose de l'ordre, oui, de la réappropriation de notre système alimentaire, de notre alimentation à travers la connaissance et le savoir, et de démocratie alimentaire, parce que bah, savoir, c'est pouvoir. Hein. Pardon, j'enfonce une porte ouverte. Enfin, je dis un truc très... Voilà. Mais... les gens qui ont lu le bouquin et qui m'en parlent depuis un mois et demi qu'il est sorti, tous les gens que j'ai vus me disent « mais je ne savais pas, j'avais aucune idée en fait, des trois quarts de ce que tu racontes dans le livre, je ne savais pas ». Et ce n'est pas normal de ne pas savoir, tout le monde mange, on fait deux, trois repas par jour ou un, mais en tout cas on mange, c'est une obsession parce qu'il faut manger pour vivre. Certains vivent pour manger et ils ont de la chance. Ceux qui mangent pour vivre sont bien au courant des violences alimentaires et ouais, encore une fois, moi, je peux plus entendre la phrase « ça coûte pas si cher de bien manger ».